Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le Zinc sur Radio Clapas, Radio Grille Ouverte et Divergence FM, Marie-Pierre Soriano au Comonde. Le Zinc, c'est votre hebdo d'une heure sur vos trois radios non commerciales préférées. Chaque semaine, mon objectif, vous présenter les productions artistiques de toutes les scènes et de toutes les contrées, histoire de vous donner envie d'en profiter. Musique, ciné, littérature et scène, il y en aura pour tous les goûts, j'espère. De toute façon, vu le contexte ambiant et général, je crois que c'est ce que nous avons de mieux à faire, de nous évader et de rêver, de ressentir. Pensez donc, sinon on a quoi, hein? On a un petit monsieur Longuet qui ne veut pas de Malek Bouti à la tête de la Halde, parce qu'il préférerait un français traditionnel. J'espère qu'il fait allusion à un poivreau lambda d'une cinquantaine d'années, parce que sinon... j'ai encore rien pigé, moi, messieurs, dames. Consternation totale, moi je préfère vous offrir une première escale, trois présentations d'albums et trois écoutes d'extraits avec celle qui fut révélée par la pub, Vanessa Brown, qui nous offre Traveling Like the Light, un album de rétro-pop promis à un succès certain. Ne bougez pas, ça vaut l'écoute sacrément. Puis je vous expliquerai comment en 11 titres percutants, Scoot Niblett sur The Calcination of Scoot Niblett nous balance un trésor de rock désespéré et qui sonnerait comme une pluie de coups de poing. Enfin, je vous causerai du retour à ne pas manquer, celui de l'indie rock USA du groupe Spoon. Leur album s'intitule Transference et nous en écouterons un extrait, alors ne bougez pas. Seconde escale, je laisserai le micro à Éric Antolin, le chargé de communication du désormais incontournable festival Itinérance d'Alès. Fondu de cinéma et de grands rendez-vous tous au poste, il vous annoncera la couleur de la cuvée 2010. Faudrait voir à pas rater ce moment-là. Troisième escale, ça c'est le cri à percer les tympans. Oui, messieurs, dames, j'étais au Rockstore le 13 mars dernier pour écouter les Plasticines. Et oui, elles m'ont accordé un entretien, les jeunes filles les plus en vue du moment. Ben oui, vous avez bien entendu, interview des Plasticines dans le Zinc cette semaine. Allez, c'est parti.
Be the same.
Voilà, vous êtes sur Radio Clapas, Radio Grille Ouverte et Divergence FM. Vous êtes bel et bien mes invités du Zinc. Sans transition, laissez-moi vous raconter l'histoire de Vanessa Brown pour entamer notre première escale musicale. En 2008, Vanessa Brown entrait sur la scène musicale par la grande porte avec son single Crying Blood qui ressemblait à s'y méprendre à un extrait de la BO d'American Graffiti, mais alors qui aurait été défoncé par Fatboy Slim. En totale adéquation avec sa musique, Vanessa Brown est celui... Elle a le physique d'une longue plante des pays chauds, le tout surmonté d'une coupe de cheveux d'un autre temps. En France, nous sommes passés total à côté de son premier single. Par contre, nous n'avons pas eu le choix, nous avons entendu et re-entendu Live dans une pub pendant des mois durant. Et ce genre de procédé-là peut être qui tout double, très dangereux. Or, Vanessa Brown, anglaise de 27 ans, née d'une mère jamaïcaine et d'un père portoricain, n'a rien d'une poupée de cire déjà consumée avant même d'être flambée. Avant de réaliser l'album qui lui collerait parfaitement au teint et dont elle a maîtrisé chaque seconde en assurant seule toutes les parties instrumentales, vocales ainsi que la spectaculaire production, Vanessa Brown a été la proie consentante de mirages autrement plus aveuglants dont elle a su s'échapper grâce à un flair et des convictions qui désormais lui servent d'armure. À Hollywood, elle tue le temps en distribuant sous le pseudonyme Geeky des chansons aux Pussycat Dolls et autres Sugar Babes. De retour à la case londonienne et alors qu'elle commence à publier quelques titres sur son MySpace, c'est ni plus ni moins l'ogre Pete Diddy qui tente à son tour d'en faire sa chose et la convoque à New York pour un showcase privé et une avalanche de promesses bling bling à la clé. Dans la longue famille des chanteuses piquées d'un fort caractère qui va de Nene Cherry à Lily Allen, Vanessa Brown fait encore figure de Benjamin. Remontée comme une pendule, langue de vipère et corde vocale amphétaminée, Vanessa Brown aime la dégomme et le bubblegum, retrouve parfois l'insolence des girls band 60s façon Shangri-Las et s'aventure même de manière subliminale dans le glitter à la Suzy Quattro. Il y a tout ceci dans son disque dont l'écoute intensive peut d'ailleurs épuiser sous le poids des informations qui crépitent comme dans un jeu vidéo. Aguichée par le monde de la mode, elle a signé un contrat de mannequin est déjà posé dans Vogue, où son image rétro-pop colle parfaitement à l'époque. Elle a par ailleurs ouvert un site de vente de vêtements vintage. Dans ce tourbillon qui commence à monter en tornade et pour se protéger des requins, elle a consigné quelques idées sur la célébrité et ses pièges dans un roman graphique qu'elle publiera bientôt en collaboration avec le dessinateur David Alain. Andy Warhol aurait adoré Vanessa Brown. One, two, one, two. How does it feel like this to be caught in a web of a heavy grip where your mind can't believe or try to admit that the one that you love is a fool? You don't realize when you finally wake up that the love that you hold is a taste of bad luck and all that you have is a bag full of lies. He's blinded you deep by the look in the pit of his eyes. And if I knew that this could be a total catastrophe, I probably would. C'était Vanessa Brown en écoute à bord du Zinc. Il y a 2 ans, Scoot Niblett, anglaise originaire de Birmingham, mais dont la musique a toujours été placée sous l'influence américaine, se frayait un joli succès avec This School Can Die Now, un des grands disques de 2008. En duo avec Bonnie Prince Billy sur 4 titres, Scoot, moins sauvageonne qu'à l'accoutumée, frottait son songwriting à un certain classicisme et atteignait des sommets. Mais attention, celles et ceux qui, conquis par le précédent album, se jetteraient sur ce nouvel album à la recherche de lyrisme et d'arrangements pop bien peignés seront déçus. La pochette intrigante, malsaine, sur laquelle elle brandit un fer à souder avec un sourire en coin, on pense là une nouvelle fois aux travaux de l'artiste Cindy Sherman, et le titre, qui n'est autre que The Calcination of Scoot Niblett, annonce la couleur. Scoot est là pour tout cramer. Un programme qu'elle applique à la lettre, flirtant sans cesse avec l'inconfort, l'arythmie, le déséquilibre, la laideur, et en prenant un pied manifeste, car il faut l'entendre enclencher la distorsion grasse, lourde, au beau milieu d'un folk song habité. L'impressionnante IBD, un des meilleurs titres du disque, et là on dirait carrément un lâcher de chien. Ou encore balancer des riffs lourds, anguleux, et taper sur sa batterie primale comme si on était à Seattle au début des années 80. En pleine rage nirvanesque, là je pense aux titres Cherry Cheek Bomb et Strip Me Pluto. On pense d'ailleurs souvent à Kurt Cobain au cours de cet album de rock écorché, parfois aride, toujours incandescent. Mieux vaut brûler franchement que se consumer à petit feu, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Cobain, avant de se donner la mort, reprenant les mots de Neil Young, une leçon que Scoot Niblett a retenue à la perfection. Welcome to my self-made sweat box. This is where I take it all off. Sweat, I gotta sweat it. Thank you. play. C'était Scoot Niblett à bord du Zinc et sans transition aucune. C'est sans transition aucune que je vais vous causer tout près dans les oreilles du meilleur de l'indie rock américain. Qui se souvient de Spoon, des maquisards du rock indé américain des années 90. À l'époque, on leur préférait Pavement ou Guide by Voices. 15 ans ont passé, Pavement et Guide by Voices ont trépassé. Spoon revient frapper à la porte et on déroule le tapis rouge. Transference, leur 7e album n'est pas la moitié d'un album, je vous le dis tout net. Sous une photo de pochette signée William Eggleston, ce qui ne gâche rien, Transference dévoile un groupe qui s'offre un nouvel horizon. Cet album serait largement constitué de démos. Paradox, c'est un disque ingénieusement produit où le groupe joue de contraste, invente des chansons en structure complexe mais au son sec, inflammable. Il nous offre aujourd'hui des chansons intenses et rêveuses, souples et nerveuses, qui rappellent parfois Arcade Fire en formation serrée, comme un premier jet mûrement pensé, l'œuvre d'un athlète aux pieds nus, sans artifice. Il est temps de reconsidérer le cas Spoon à vos casques. Prêt, partez. John, his sly face fur. Still just a confused, still just as sure. He's still just as charming. Points at the view as he hands your wage to you. Oh, oh, ooh, do you break it? Who makes you mine? Off they'll take it. Oh, oh, ooh, who makes you money? Who makes you money? Who makes your money? Who thinks they might? And who's gonna be there to take that fight? Some try to relax, some try to know. Some try to get there, but no place to go, no place to go. Who makes your money? Who makes your money? I'll take it. Oh, oh. Make
makes you mal. Vous makes you mal. Makes you mal. Makes you mal. Makes you mal.
Entendre le groupe Spoon et j'espère que ça vous a plu. Vous êtes mes invités à bord du Zinc sur Radio Clapas, Radio Grille Ouverte et Divergence FM. Notre première escale bouclée, je suis à présent très très heureuse d'ouvrir pour vous la seconde. Elle a pour sujet le très bon festival de cinéma Itinérance d'Alès dans les Cévennes qui existe depuis 1983 quand même. Le festival aura lieu du 19 au 28 mars et il comportera une compétition de courts-métrages, des concerts, des invitations surprises, en plus bien sûr des heures et des heures de films projetés en salles obscures dont on va pouvoir se baffrer. Pour vous donner envie, j'ai aujourd'hui invité Éric Antolin, chargé de communication du festival Itinérance. Éric Antolin, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation à bord du Zinc. Alors tout le monde a tremblé jusqu'à la dernière minute, mais ça y est, elle est dans les starting blocks, la 27e édition du Festival Itinérance.
Oui, la 28e édition est dans les starting blocks, effectivement. C'est vendredi 19 à 19h, un bon moyen mnémotechnique. On est obligé d'être prêt à cette heure-là, de toute façon, donc voilà, on le sera.
D'accord. Alors avant d'entrer plus en détail dans les grands rendez-vous qui nous attendent cette année, je voudrais que tu choisisses trois termes pour qualifier la cuvée 2010.
On n'est pas en direct. Termes. Ouais. Oh, c'est incroyable. Trois termes, alors c'est un peu au dépourvu là comme ça, je choisirais peut-être foisonnant, ouais. Riche, et un truc en rapport avec la découverte, mais je trouve pas le mot, je sais pas.
Inédit.
Oui et non, tu m'as séché là. Foisonnant, qu'est-ce que j'ai dit le deuxième ?
Riche,
foisonnant et convivial.
Très bien, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la compétition des courts-métrages hein, qui a lieu chaque année, et cette année, qu'est-ce que tu peux nous en dire ?
Je peux dire que c'est une compétition qui est composée uniquement de 12 films. Déjà c'est une compétition de films francophones, qui est composée uniquement cette année de 12 films, et si je dis uniquement, c'est parce que pour choisir ces 12 films, les personnes, les bénévoles qui ont fait la sélection en ont vu 505 depuis septembre dernier. Et donc je pense que ça va être, alors moi j'en ai pas vu un seul pour le moment, mais je pense que ça va être une compétition assez intéressante. Ils ont essayé uniquement 12 films sur les plus de 500 qui ont été inscrits de montrer ce qu'il y avait de meilleur dans des styles assez différents, et même une comédie musicale.
Très bien. Alors, en préparant l'émission, hein, j'ai vu que Le Diable Vauvert fêtera aussi ses 10 ans au Festival Itinérance d'Alès. Tu peux nous en dire quoi de ça ?
En fait, c'est quelque chose qu'on avait... On avait envie de faire quelque chose avec Le Diable Vauvert depuis pas mal de temps.
Ouais.
Parce que c'est des voisins, tout simplement.
Ouais, ouais. Des voisins de qualité, en plus.
Hein. Ouais, en plus, ouais. Et ça avait jamais pu se faire parce qu'on tombe souvent en même temps que le Salon du Livre, etc. Ouais. Et du coup, avec Marion Mazouric, on se croise régulièrement et là, on s'est dit, y a les 10 ans, c'est maintenant ou jamais, en quelque sorte. Ça fait 3 ans qu'on essaye de faire quelque chose. Là, c'est maintenant ou jamais. Et du coup, Marion était partante à fond pour ce projet. Et surtout quand on lui a proposé de faire la Nuit du Diable. Alors nous, on propose des films. Ouais. On n'est pas éditeur. On fait pas de littérature. On s'occupe pas de livres.
Mais chacun son métier.
Chacun son métier, exactement. Donc on propose des films et le diable dans les films, c'est depuis les tout débuts du cinéma, depuis la 1895, où on voit des diables dans les films, et on a fait une petite sélection. Alors il n'y a que 4 longs métrages et 2 courts métrages des débuts du cinéma. Et voilà, donc on s'est dit on va marquer le coup à notre manière, à la manière dont qu'on connaît un petit peu quand même.
Donc Marion Mazurik sera là.
Oui, elle sera là. Et en plus, elle sera dans le jury de la compétition de court-métrage. Et elle viendra présenter cette Nuit du Diable samedi 20.
Parfait. Quels invités sont attendus à Alès ?
De nombreux invités. Tous les ans, il y a à peu près une cinquantaine d'invités. On était sur le court-métrage. Évidemment, il y a tous les réalisateurs de court-métrage en compétition. Il y a également, j'ai parlé de Marion Mazurik qui était dans le jury, mais les autres membres du jury, il y a deux jurys au festival. Un jury qui va donner le grand prix du festival et un autre jury qui va se consacrer à la musique originale, qui va donner un prix pour la musique originale. Après, on rend aussi pas mal d'hommages pendant le festival, notamment à Bernadette Lafont, qui sera présente sur le premier week-end, mais également à une maison de production de documentaires belges qui s'appelle Wallonie Images Production. Et puis, on fait également un hommage à Benoît Delépine et Gustave Kervern en passant l'intégrale de leur film. Et Gustave Kervern sera présent. On en profite d'ailleurs pour faire le 27 mars, à cette occasion, à l'occasion de cet hommage, une nuit. Et il nous a paru important, par les temps qui courent, de parler de l'identité nationale,
c'est ça. J'allais y venir, c'est un bel engagement encore, hein, à Alès, là.
Voilà, c'est ça, on a voulu parler de choses importantes. L'identité nationale groenlandaise, c'est très important à nos yeux.
Surtout quand on vient de voir les premiers résultats du premier tour des régionales, là, on prend peur.
En plus.
C'est ça.
Je ne sais pas comment c'était à Groenland, à la présipauté pour les élections, je ne sais pas, mais voilà. Peut-être on va aller s'exiler, je ne sais pas.
Y a un moment que tu as hâte de voir arriver lors du festival chaque année ou dans celui-là en particulier ?
Ouais, en fait, c'est pas un moment, c'est très perso, c'est pas un moment de film ou de rencontre avec des invités ou de choses comme ça. C'est de voir les spectateurs qui sortent des salles. C'est quelque chose qui motive bien de voir des gens qui sortent soit avec un grand sourire parce que ils ont passé un très bon moment, ou alors de les voir discuter au bar après du film qu'ils viennent de voir et qui ne seront pas forcément allés voir en plus dans le reste de l'année, parce qu'on a un public qui est extrêmement curieux, et ça c'est bien. Et c'est de voir les gens, les réactions qu'ils ont, alors que ça leur plaise ou que ça leur plaise pas, mais que voilà, ça les films et les rencontres font toujours réagir pendant le festival, et du coup ça fait plaisir, on est là pour ça aussi, quoi, donc ça fait vraiment plaisir de voir ça. Après, effectivement, je pourrais la jouer, j'attends de voir tel film ouzbek en noir et blanc, tout ça, ce qui est vrai aussi, mais en fait le c'est vraiment un grand plaisir de voir les spectateurs s'amuser, prendre du plaisir à venir et à enchaîner les films, en voir 3-4 par jour pour certains, c'est assez ça fait plaisir.
C'est ça. Donc tu le disais au début de l'interview, hein, c'est la 28e édition du Festival Itinérance. C'est devenu un festival avec une portée quand même nationale, peut-être même internationale. Tu peux nous donner quelques chiffres ?
Oui, ça dure 10 jours le festival, c'est dans 7 salles de la ville.
Ouais.
Il y a plus de 200 films, courts-métrages, longs-métrages, fiction ou documentaires qui sont présentés. Il y aura 3 concerts cette année, parce qu'on essaye de faire des passerelles entre cinéma et spectacle vivant, mais aussi cinéma et les autres arts. Donc il y a les concerts, il y a ce qu'on fait pour les 10 ans du Diable Vauvert autour de la littérature, mais il y a également 4 expositions de photos au musée Pape d'Alès.
Ouais.
Donc on essaye de faire ça. C'est assez important pour nous. Je le disais tout à l'heure, il y aura à peu près une cinquantaine d'invités. Et alors, l'année dernière, on a fait 43 000 entrées. On espère qu'on en fera au moins autant cette année, c'est-à-dire plus d'entrées que d'habitants à Alès. C'est pas mal.
Oui. C'est aussi une programmation pour la jeunesse. C'est aussi un travail avec les scolaires.
Oui, il y a une assez grosse programmation en direction du jeune public qui viennent avec leur classe. Alors le jeune public, pour nous, ça va de la crèche jusqu'à la terminale, jusqu'au lycée.
Oui.
Donc les films, c'est très éclectique. On peut avoir des films pour les tout petits, vraiment, je pense, je sais pas, Panda Petit Panda par exemple, ou des choses comme ça, jusqu'à Kamsa de Karim Dridi, qui est plus pour les lycéens de première ou de terminale, parce que c'est un film un petit peu dur.
Oui.
Et effectivement, voilà, il y a à peu pris 25 films dans cette programmation, et tous les ans c'est entre 13 et 15 000 selon les années, lycéens, étudiants, enfin collégiens, lycéens et écoliers qui viennent voir ces films.
C'est ça qui est aussi magnifique au Festival Itinérance d'Alès, c'est qu'il y a un mixage de la population avec des gens de tous les âges, puisqu'il y en a pour tout le monde. Est-ce que l'engagement des lycéens restera le même, avec toujours ce phénomène de journal qu'ils écrivent en temps réel ?
Oui, le journal du festival, le quotidien, toute la ville en parle, qui est écrit par des lycéens d'Alès tous les jours, effectivement. Et oui, ça fait plusieurs années que ça dure, et ça va durer encore un petit peu. Donc ils sont encadrés par deux rédactrices en chef qui leur distribuent entre guillemets les sujets le matin. Ils vont voir des films, rencontrer les invités, faire des interviews, et puis ils doivent écrire pour l'édition du lendemain. Voilà, comme un vrai journal. C'est un vrai journal de toute façon, et ça relate bien la vie du festival au jour le jour. Et depuis 3 ans d'ailleurs, on peut le télécharger sur internet quand on n'est pas sur le site.
Super. Eh bien écoutez, moi il y a déjà l'arrivée du printemps, c'est déjà pas mal hein, pour commencer Itinérance. Éric Antolin, merci beaucoup de m'avoir consacré du temps. Je vous souhaite une très très belle édition 2010. À très bientôt.
À bientôt.
Ща будет круто, бля! Ща будет круто!
vous êtes bien sur Radio Clapas, Radio Grille Ouverte et Divergence FM, vous êtes bien à bord du Zinc et vous venez bien d'entendre Gogol Bordello. Allez-y, tous debout sur les tables, nous avons rendez-vous avec les Plasticines. Elles sont les icônes de la nouvelle scène rock française. À la base, ces copines de lycée ont commencé par monter leur groupe en 2007. Elles ont fait une petite couve de rock and folk et hop, un petit taratata, et les voilà propulsées tout en haut de l'affiche. Leur premier album s'intitulait LP1 est sorti en 2007. L'année dernière, en 2009, elles revenaient avec About Love et elles sont depuis en tournée. Le 13 mars, elles étaient à Montpellier au Rockstore et pour vous et moi, elles ont accepté de se prêter au petit jeu de l'interview. Anaïs et Louise des Plasticines, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Alors première question, vraiment très vite fait, est-ce que Montpellier, ça vous évoque déjà quelque chose ?
La première fois que j'y vais.
Ok,
voilà. Pareil, je crois pas qu'on ait déjà joué à Montpellier sur la première tournée. Tout à l'heure, dans le van, nous disait c'est quoi la spécialité de Montpellier ? Alors, est-ce que je sais pas si quelqu'un peut répondre à ma question ?
Alors, About Love, votre second album, est placé sous la houlette de votre rencontre avec Butch Walker. Le premier était le résultat de votre rencontre avec Maxime Schmitt. Vous pouvez nous en parler un petit peu de ces rencontres ?
Eh ben, moi, je vais parler de Butch Walker. Tu parleras de Maxime ? Et c'est une rencontre, on l'a rencontré quand on a eu la chance de jouer dans un gros festival au milieu du désert californien qui s'appelle Coachella. Et il est venu nous voir, en fait, c'est un ami qui lui a dit « Va voir les Plasticines, elles sont géniales, blablabla ». Donc il était sur le côté de la scène pendant tout le concert, et donc nous, après le concert, on était là « Bon, allez, on va faire la fête, festival énorme, dans le désert, avec des têtes d'affiches comme Roger Waters, il y avait Prince qui jouait, il y avait Justice, donc c'était assez fou ». Et il y a un producteur qui n'arrêtait pas d'appeler notre tour manager en disant « Je veux rencontrer les filles, je veux rencontrer les filles ». On était là, c'est un petit producteur pourri, il va nous prendre une heure, il va nous saouler. Et notre assistante qui était là, qui était américaine, nous dit « Il y a mon tour manager, mais c'est quoi le nom de ce mec ?» Et il fait « Je sais pas, Butch Walker ». Elle fait « Non, mais c'est juste le plus gros producteur américain en ce moment, donc je pense qu'il faut que vous le rencontriez ».
C'est juste Pink et Avril Lavigne quand même.
Pink, Avril Lavigne, c'est Katy Perry, c'est les Donna, c'est un groupe dont on est hyper fan, donc c'est vrai que c'était...
Hit pour un petit peu le groupe.
Ouais, il a fait énormément de groupes, il a fait Panic at the Disco, Fall Out Boy, donc c'était vraiment assez fou, et on l'a rencontré, et voilà, le feeling il passait tout de suite, et 6 mois après, on était en studio avec Lee... à Los Angeles.
Dans une petite maison sympa.
Dans une grosse maison sur les collines de Malibu, voilà quoi, comme une petite famille. Sa femme, le soir, elle venait, nous a mangé avec son fils. Et genre, non, ouais, c'était vraiment très familial comme ambiance finalement.
Maxime Schmitt, donc ça c'était il y a quand même pas mal d'années, il y a plus de 4 ans à peu près.
5 ans, ouais.
5 ans, ouais.
Ouais, 4 ans et demi, 5 ans. On l'avait rencontré dans un petit concert. Dans un bar à Paris, et il y a une des filles qui a dit « Ah, on a un groupe ». Il fait « Ah, ben c'est bien, vous jouez depuis combien de temps ?»« Bah, on est ensemble depuis 4 mois ». Il fait « Et vous jouez depuis combien de temps ?» Dans ce rayon, « Bah, 4 mois ». Et il a trouvé ça marrant, donc il est venu nous voir en concert, et il a eu aussi un espèce de coup de cœur, et on a commencé petit à petit à travailler ensemble, et c'est lui qui a produit le premier album.
LP. Ok. Après le gros carton du premier single de Loser, en fait, vous êtes d'abord enfermé à Clermont-Ferrand. Après, vous êtes parti aux États-Unis. Est-ce que vous avez fui un petit peu les sceptiques français, les grincheux ?
En fait, ce qui s'est passé, c'est que pour ce deuxième album, ceux qui nous ont fait confiance pour le faire, ça a été les Américains et les États-Unis en général. Donc, c'est pour ça qu'on est parti aussi, parce qu'on avait cette proposition, cette opportunité. On avait besoin aussi de faire quelque chose d'un peu différent plutôt que de rester dans le petit milieu, la musique. En France, etc. Et comme on nous a donné notre chance là-bas, on est parti tout de suite sans vraiment réfléchir. Et puis ça a plutôt porté ses fruits. On était contente d'enregistrer ailleurs, de se retrouver avec des gens totalement différents, une culture différente et une façon de travailler différente. Ça nous a fait beaucoup de bien.
Je résiste pas à la question. C'était comment Gossip ?
Gossip Girl, c'était fou, complètement fou. En fait, on est vraiment fan de la série à la base. Mmh. Et c'est vrai que quand elle nous a écoutés, elle a eu notre CD par rapport, parce qu'on a signé aux États-Unis, donc elle a reçu notre CD, la fille qui s'occupe de toute la programmation de la BO musicale, et elle a fait « J'adore Beach », il me l'a fait absolument pour un épisode, donc au début elle voulait juste la chanson Beach, après elle a voulu une deuxième chanson, après elle a voulu une troisième chanson pour un autre épisode, et à la fin elle a fait « Bon, bah, elles ont qu'à venir, elles ont qu'à jouer », et puis voilà, donc on s'est tous retrouvés... derrière la caméra, ce qui était très très bizarre, alors qu'on regardait la scène, on était là, mais c'est bizarre, on est dans la scène, enfin c'était un peu bizarre. Donc, et c'est les acteurs qui venaient nous voir en nous demandant des autographes, on était là, non mais c'est le monde à l'envers, vraiment quoi. Donc, mais c'était génial, c'était très cool.
Anaïs, tu es la dernière arrivée, t'es la batteuse.
Ouais.
Tu l'as trouvé comment ce groupe ? Bon, à part internet, ça on le sait, mais en arrivant, t'as trouvé quoi en fait, qui te donne envie de rester ?
Elles blablataient, c'était génial. Ah non, c'est vrai. En fait, elles sont arrivées et moi, j'étais déjà prête à la première répète. Moi, j'étais à ma batterie prête, ultra stressée. C'était horrible. Enfin, je ne les connaissais pas du tout. J'avais rencontré Louise une fois, mais en 10 minutes, quoi. Enfin, c'était vraiment rien. Et elles sont arrivées et elles ont commencé à parler de trucs, de leur soirée, de blablabla. C'était trop une espèce d'harmonie et c'était vachement... Enfin, c'était un peu dans
dans la cacophonie.
Ouais, voilà, c'était un peu, je sais pas. Et puis, à soirée thèse, on fait « Ah, bah, faut peut-être jouer. » On a joué un morceau et après, on a continué à blablater. J'étais « Ah, bon, bah, c'est cool. » Et c'est vraiment la... cette espèce de cohésion qu'on a eue tout ensemble à la première répète, je pense. Et c'est ça qui m'a plu, ouais.
Bon, alors là, on est à la radio, donc les auditeurs voient pas. Mais vous ressemblez quand même plutôt à des élèves de l'Ivy League qu'à des punks. League, c'est les gossip girls en fait, les voilà. Le rock and roll, c'est repassé maintenant, c'est très XOXO, c'est-à-dire que il faut plus être un garçon mal coiffé et qui pue un peu.
C'est pas nécessaire d'être un garçon mal coiffé qui pue, tu peux être une fille avec les cheveux gras qui pue aussi, ça nous arrive. Ensuite, nous, on n'a jamais essayé de revendiquer un côté ultra trash parce que on fait ce qu'on veut de notre vie, mais ça nous intéresse pas d'étaler quand on a la gueule de bois ou quand on a trop bu, quoi. C'est pas, ça nous ressemble pas et c'est pas vraiment comme ça qu'on est non plus. Donc je pense que on a du mal en France à sortir un peu des stéréotypes, c'est-à-dire que si on fait du punk ou du rock, faut être dégueulasse et vomir partout ou avoir des textes super engagés et surtout être un mec ou voilà, être une meuf, mais ça veut dire être ultra trash dans sa manière de réagir. Alors et enfin, d'agir aussi. Mais c'est vrai que nous, ça ne nous ressemble pas et on fait quand même du rock, ça ne nous empêche pas. Je pense que les gens étaient un peu perdus parce qu'ils n'arrivaient pas à nous ranger dans une case. On n'est pas pop non plus parce qu'on n'est pas toutes lisses et on n'est pas dégueu non plus, donc on n'est pas
rock. Ouais.
C'est marrant pourtant parce que pour les Français, ils sont des rock et quand les me parle de vous, ils n'associent pas pop parce que vous faites pas rock.
Ouais, mais je crois que nous sur scène on est d'abord un groupe de rock et après l'étiquette un peu pop nous dérange pas parce que sur ce deuxième album on a été vachement influencé par des groupes pop 60s, des girls groups, donc nous ça nous pose pas de problème.
C'est comment la première partie à Bercy de 30 Seconds to Mars?
C'était dur mais c'était fou, enfin, c'était bizarre de se retrouver, nous on est en tournée et on fait des salles de entre 500 et 1000 personnes, donc c'est vrai que c'est quand même des salles où t'es très proche du public et très proche sur scène finalement aussi et là t'arrivais et tout était démultiplié par 10, donc c'était un peu bizarre quoi, mais c'était une chance incroyable quoi. On peut dire maintenant qu'on a fait Bercy, donc c'est cool.
Ok, bon, vous avez tout plaqué pour faire que de la musique. Bon, l'industrie du disque c'est pas la fête non plus là en ce moment. Vous pensez quoi sur cette question là en fait?
Je pense que c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la musique ça reste un hobby et que c'est pas un vrai métier, alors que certes, c'est un métier génial, mais c'est aussi notre vie tous les jours. Donc voilà, on a la chance de pouvoir en vivre un petit peu maintenant. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus évident, encore plus maintenant, je pense. Donc c'est tout le temps sur la route, plein de concerts. Voilà.
Je vous remercie d'avoir répondu à l'interview. Est-ce que vous avez la vie dont vous rêviez quand vous étiez des petites filles?
Ouais, même mieux, je pense.
Ouais, j'y rêvais pas, mais c'était cool.
J'y rêvais pas, mais c'était pas mal.
Merci. C'était les plasticines en interview et en écoute. Merci à elles. Le zinc, c'est fini pour cette semaine. C'était Gabriel de Radio Clapas à la technique, que je remercie. Marie-Pierre Soriano aux commandes. Je vous donne rendez-vous même heure, même place la semaine prochaine. Et d'ici là, restez près du son et loin du bruit. Bien calé à l'écoute de vos trois radios préférées et militantes. Prenez soin de vous.
Zikatele, zikatele, waya kamoto.